Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès, chaque semaine sur Nutri Radio, votre émission qui ne vous retourne pas le cerveau, mais qui au contraire vous explique comment il fonctionne. Et donc, cette semaine, alors la semaine dernière, je vous rappelle qu'on a fait une... Enfin, Célia a proposé une émission exceptionnelle, comme toutes d'ailleurs, sur la transmission de l'influx nerveux que vous pouvez retrouver en podcast dans la partie émission sur le site nutriradio.fr, sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio également. Et cette semaine, vous allez nous parler des neurotransmetteurs et de leur rôle. Et alors ça, je suis vraiment très content parce que dans beaucoup d'émissions sur Nutri Radio, on parle de ces neurotransmetteurs. Il y a beaucoup aussi de personnes qui font des contenus sur les réseaux, qui nous parlent des neurotransmetteurs. Mais en vérité, c'est pas toujours très clair. Donc je suis content d'en parler avec vous et que vous puissiez communiquer ça à nos auditeurs pour voilà, avoir un docteur en neurosciences. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc, vous avez commencé par lequel ?
Alors, bah écoutez, déjà bonjour. Donc, effectivement, on va commencer par l'acétylcholine. L'acétylcholine, chers auditeurs, c'est le neurotransmetteur qui est notamment, on en a déjà parlé, impliqué dans la mémoire, les apprentissages. C'est ça permet aussi de faire battre le cœur puisqu'il y a libération d'acétylcholine au niveau pour la fréquence cardiaque. Mais peu importe, on va rester dans le cerveau aujourd'hui. Effectivement, cette acétylcholine, c'est quoi ? Deux types de récepteurs, un récepteur nicotinique et un récepteur muscarinique. Donc, votre acétylcholine va se fixer. Tout ce qui va être nicotinique est plutôt excitateur. Tout ce qui est muscarinique, quand ça se fixe, est plutôt inhibiteur. Donc, l'acétylcholine, suivant le récepteur sur lequel il va se fixer, ne va pas avoir, évidemment, le même effet. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce neurotransmetteur, c'est vraiment la mémoire, les apprentissages, le fait de pouvoir acquérir de nouvelles informations. Il est notamment et principalement, d'ailleurs, situé au niveau de l'hippocampe, région cérébrale impliquée dans la mémorisation. Donc, pourquoi j'ai décidé d'en parler ? C'est vrai que, comme vous dites Fabrice, on entend beaucoup de choses sur les neurotransmetteurs, par-ci, par-là, etc. Mais finalement, votre neurotransmetteur, c'est une substance, tout simplement. Et cette substance, elle doit être diffusée. Elle doit être diffusée dans cette fente synaptique via la connexion entre deux neurones, via la synaptogénèse, justement, enfin via les synapses, pour pouvoir transmettre son information et faire son effet. Et évidemment, à un moment donné, comme je l'ai dit dans les précédentes émissions de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va avoir recapture du reste de l'acétylcholine pour éviter que l'acétylcholine continue à faire son effet. Parce qu'évidemment, c'est une question de balance. Donc, cette acétylcholine, mémoire, apprentissage, etc., ça c'est son problème, c'est important parce que justement, vous voyez bien que neurophysiologiquement, s'il y a un problème au niveau de la transmission de l'acétylcholine, qu'il est dégradé trop tôt, ou que les enzymes ne font pas leur travail, eh ben, il va se passer quoi ? Une diminution des apprentissages. D'ailleurs, chers auditeurs, chez les personnes plutôt âgées, on trouve chez les personnes âgées, et c'est normal qu'il y ait un petit déclin cognitif. Je ne parle pas encore d'Alzheimer, hein, mais un petit déclin cognitif avec généralement des personnes qui se plaignent de troubles de mémoire, peut-être d'apprentissage, un peu plus lent. C'est tout simplement parce que leur taux d'acétylcholine va diminuer. Ce qui est logique, puisqu'en vieillissant, on a peut-être de moins en moins de cellules. Les cellules, en tous les cas, ne fonctionnent plus correctement. Et du coup, ce taux diminue et on le ressent, nous, en tous les cas, en termes de personnes, comportementalement, en se plaignant soit de troubles de mémoire, soit en voyant ses proches avoir quelques troubles de mémoire. Et n'en parlons pas chez la maladie d'Alzheimer, où il y a une chute, évidemment, de cette acétylcholine. C'est pour ça que de donner parfois effectivement un agoniste de l'acétylcholine pour mimer l'acétylcholine, pour prendre le relais sur l'acétylcholine, pour la fournir cette acétylcholine de manière synthétique, parce qu'on n'arrive plus à la synthétiser correctement. Évidemment, il y a eu des pistes en donnant de la nicotine. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit en préambule, l'acétylcholine se fixe aussi sur des récepteurs à nicotine, nicotinoénergiques. Ces récepteurs-là, donc, ça veut dire qu'ils vont supporter la nicotine. Et d'ailleurs, quand on fume, bah, ça peut se fixer sur ces récepteurs-là. Mais comme ça a le même effet que l'acétylcholine, évidemment, il n'y a pas une diminution des performances. D'où le fait que beaucoup d'études ont montré que la nicotine, bien qu'addictive, était celle qui augmentait certaines performances cognitives, etc. Et pour tout vous dire, chers auditeurs, j'ai même eu des étudiants qui s'étaient mis à fumer, soi-disant, pour augmenter leurs performances cognitives. Alors, je vous rassure, ça n'a pas fonctionné, parce que sans travail, ça ne fonctionne pas, et ce n'est pas magique non plus. Ça pourrait éventuellement pallier le problème d'un manque d'acétylcholine. Et inversement, si vous bloquez l'acétylcholine, ça peut être la mort parce que plus d'influx nerveux, ça peut être un problème ou une diminution, évidemment, de la mémoire. Notamment, il y a un médicament que l'on peut donner, notamment, alors, il est assez fort, je pense, qu'on ne le donne pas en première intention. En tous les cas, il faudrait demander à un médecin, je ne sais pas où ils en sont de cette prescription-là. Mais c'est la scopolamine qui est notamment donnée pour lorsqu'il y a des problèmes de spasme au niveau de l'intestin, des problèmes de transit, enfin des problèmes au niveau de l'intestin. Et ben, ce médicament-là bloquerait un petit peu effectivement l'activité acétylcholinergique, mais là, à juste titre, donc il n'y a pas de problème, j'allais dire létal, ça on est bien d'accord. Mais évidemment, les conséquences, ça va être peut-être une diminution de la mémoire. Donc les personnes qui seraient sous ce type de traitement parce qu'elles ont des problèmes de transit, des problèmes de spasme au niveau du tube digestif et qu'il a fallu diminuer l'activité digestive, parce qu'il ne faut pas oublier, chers Fabrice et chers auditeurs, que notre activité digestive, notamment lorsque notre bol alimentaire progresse de la bouche à l'anus, ce qui va être activateur, ça va se faire grâce à l'acétylcholine. Donc si peut-être c'est trop actif qu'il faut diminuer pour avoir moins d'activité et pour ressentir moins de douleur, forcément, ben, on diminue l'activité de l'acétylcholine, sauf qu'on ne va pas la diminuer de manière forcément totalement ciblée. Et ce qui peut se passer, c'est des troubles de mémoire chez les personnes qui vont prendre ce type de produit. Voilà l'importance, effectivement, de ces neurotransmetteurs. Et surtout, évidemment, je le redis, souvenez-vous, nous en avions parlé dans une émission, ces neurotransmetteurs substances qui sont, évidemment, fabriqués à partir d'acides aminés. Ce qui signifie que pour que ça fonctionne bien et que l'influx nerveux fonctionne bien et qu'il y ait bien libération d'acétylcholine dans votre fente synaptique, qu'elle passe bien au niveau du second neurone, c'est-à-dire que le ballon de votre basketteur passe du basketteur A au basketteur B, et ben il faut absolument que votre basketteur A, il ait son ballon entre les mains. S'il n'a pas de ballon entre les mains, que c'est, j'allais dire, une peau de chagrin, qu'il n'y a plus de ballon et que le ballon est éclaté, et ben il ne risque pas de faire une passe, il ne risque pas de gagner le match puisque tout est foutu. Tout simplement, voilà comment cela fonctionne déjà pour l'acétylcholine.
L'acétylcholine, premier neurotransmetteur dont vous nous avez parlé aujourd'hui. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Et vous allez tout savoir sur les catécholamines. C'est sur Nutri Radio, évidemment que ça se passe. Et c'est après ceci.
NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Alors ça, c'est pas une émission de radio, c'est un cours, mesdames, messieurs, véritable masterclass de Célia Morès, comme chaque semaine d'ailleurs, docteur en neurosciences, qui nous parle aujourd'hui des neurotransmetteurs. Première partie consacrée à l'acétylcholine, et là vous allez nous parler des catécholamines ou catécholamines.
Catécholamine. Voilà. Ceci dit, je pense qu'on peut peut-être dire les deux. C'est vrai que j'ai entendu déjà des scientifiques dire catécholamine, mais c'est vrai que dans le langage courant, c'est plutôt catécholamine. Mais à la limite, pourquoi pas, parce que ça s'écrit, effectivement, on pourrait le prononcer de cette manière-là. Alors, pourquoi est-ce que j'ai les catécholamines? C'est-à-dire que les catécholamines, c'est trois neurotransmetteurs. C'est la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. C'est-à-dire que ces neurotransmetteurs sont à peu près la même base. Le premier, c'est la dopamine, qui ensuite, grâce à l'action d'une enzyme, va se transformer en noradrénaline, et ensuite, grâce à une enzyme, va se transformer en adrénaline. C'est pour ça qu'on les appelle les catécholamines, parce que finalement, la synthèse se fait de cette manière-là. Évidemment, chers auditeurs, comme tous les neurotransmetteurs, ça se fait à base d'acides aminés. Donc, si on n'apporte pas, comme je vous l'ai dit pour l'acétylcholine, dans l'alimentation, des plats, justement, avec ce type d'acide aminé, on ne pourra pas fabriquer des catécholamines. Et on va voir à quoi ça sert. Donc déjà, l'acide aminé en question, c'est la tyrosine et la phénylalanine. Important parce qu'au moins un des deux, la phénylalanine, est un acide aminé essentiel, donc simplement apportable par l'alimentation. Donc on en trouve, bon, je passe, mais dans la dinde, par exemple, dans la ricotta, dans le cottage cheese, etc. Mais peu importe, le but est de pouvoir évidemment les synthétiser. Donc premier neurotransmetteur synthétisé, ça sera la dopamine. Ensuite, la noradrénaline et ensuite l'adrénaline, ce qui veut dire que les uns découlent des autres et que si on manque de dopamine, on peut évidemment manquer de noradrénaline, etc. Parce qu'évidemment, c'est grâce à une enzyme que la synthèse continue et peut se faire. Donc, si on manque du premier, on va pas avoir forcément plus de deuxième et plus de troisième. Ça va évidemment se répercuter. Alors, à quoi ils servent ces neurotransmetteurs? Déjà, la dopamine, neurotransmetteur que j'adore particulièrement dans le cerveau, il est impliqué dans la motivation et le plaisir. Vous êtes motivé à écouter Nutri Radio tous les jours, à écouter la sphère neuro, à écouter la bulle astro, à écouter d'autres types d'émissions, etc., qui passent sur Nutri Radio. Ben, c'est quoi qui va vous motiver? C'est cette libération de dopamine, parce que vous y avez pris du plaisir. Donc, libération de dopamine. Plaisir avec cette dopamine-là. Ensuite, la dopamine, c'est pas seulement ça. C'est aussi la vigilance, l'attention. Ça vous permet de rester attentif, de mobiliser vos ressources attentionnelles sur une tâche et de ne pas vous laisser distraire par des petits environnements extérieurs, par une notification sur votre téléphone lorsque vous êtes en train de travailler. C'est ça aussi. Vigilance, ça vous permet de réagir, d'être réactif à une situation donnée. Ça va être important. Ensuite, on va avoir quoi? Effectivement, on va avoir aussi la noradrénaline et l'adrénaline. Noradrénaline et adrénaline, c'est quoi? Pareil, vigilance, attention, mémorisation, finalement, elles ont toutes. La dopamine, noradrénaline et adrénaline, finalement, elles vont avoir une action, elles vont avoir un rôle, pardon, sur la vigilance, l'attention, la mémorisation quelque part. La dopamine en particulier avec un petit focus sur, évidemment, la motivation et le plaisir. Mais on voit bien à quoi servent ces neurotransmetteurs. Et je terminerai aussi, c'est que la noradrénaline, l'adrénaline, ce sont les premiers neurotransmetteurs libérés en situation de stress. Donc, vous êtes en situation de stress, je me bats, je fuis, qu'est-ce que je fais parce que vous rencontrez, je ne sais pas, un ours ou tout. Ou dans une émission précédente, on parlait de veuve noire, de l'araignée, et que si l'araignée nous piquait, ça pouvait être la mort parce que ça allait bloquer notre transmission d'acétylcholine. On peut avoir peur, forcément, c'est grâce à la noradrénaline et à l'adrénaline que l'on va pouvoir réagir. Donc, d'où le problème si on n'en a pas assez. Si on en a trop, ça peut poser problème, mais si on n'en a pas assez, ça va poser problème. Et là encore, donc, ces neurotransmetteurs servent à ça. Donc, on pourrait se les booster, évidemment, en consommant les acides aminés, en essayant les acides aminés essentiels comme la tyrosine, par exemple, la phénylalanine ou la tyrosine pour pouvoir synthétiser. Mais il faut faire attention de ne pas trop en synthétiser, chers auditeurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a trop de dopamine, par exemple, les personnes qui sont atteintes de schizophrénie, il y a trop de dopamine et on va leur donner des médicaments qui s'appellent les neuroleptiques pour bloquer la libération de dopamine, pour diminuer l'effet, parce que c'est grâce à cette trop grosse libération de dopamine qu'on va avoir des personnes un petit peu délirantes. Mais lorsqu'on manque de dopamine, même si ce n'est pas tout à fait situé au même endroit dans le cerveau, ça peut être Parkinson. Donc, vous voyez ce qui peut être ennuyeux. Et aussi, vous avez tous entendu, chers auditeurs, parler des amphétamines. Ces fameuses substances, certes, illicite, ça dépend en fait dans certaines situations, je crois que ça peut être donné médicalement dans certains hôpitaux par la pharmacie de l'hôpital dans certaines situations, mais en tous les cas, consommer les amphétamines en France est plutôt illicite. Ça fait quoi? Les gens qui prennent des amphétamines, généralement, c'est pour booster leur cerveau, pour booster leur performance, pour éviter de dormir, pour rester plus vigilant, plus attentif, pour pouvoir travailler plus longtemps au cours de la journée, parce que justement, ils veulent réduire leur nombre d'heures de sommeil, ne pas être fatigué et vraiment continuer le travail au maximum. Notamment, ça peut être des professions médicales qui à risque. Les étudiants en médecine, moi à l'époque où j'ai fait médecine, j'avais certains de mes camarades qui avaient avoué consommer ce type de substance. Et ça fait quoi? Ça bloque la recapture de la noradrénaline, adrénaline notamment, qui est dans la fente synaptique. C'est-à-dire que ça va prolonger l'effet de la noradrénaline et de l'adrénaline, notamment dans cette fente synaptique, pour maintenir éveillé, pour maintenir l'éveil. Sauf qu'évidemment, on le sait tous, les conséquences de la prise d'amphétamine, ça peut être des problèmes cardiaques, ça peut être d'autres types de problèmes, donc les effets indésirables sont tels qu'il vaut mieux éviter de consommer ce type de produit. Mais voilà comment est-ce qu'on peut mimer à un moment donné en prenant des agonistes, du coup, justement, ou en tous les cas des substances qui enlèvent justement la dégradation de ces neurotransmetteurs, de prolonger l'effet avec les conséquences que cela peut avoir. Tout simplement, mémoire, apprentissage, motivation et donc apport via l'alimentation, puisqu'il faut absolument qu'elle puisse synthétiser. Souvenez-vous de vos basketteurs avec le ballon. Sans ballon, évidemment, il ne peut pas y avoir de passe, tout simplement.
Ah, vous aimez beaucoup le basket, vous, Célia?
Non, je trouve que c'est une image qui parle bien, en fait, d'expliquer comment est-ce que finalement la communication se fait. Et effectivement, bah, s'il n'y a rien à communiquer, s'il n'y a pas de connexion entre deux voix, bah, il n'y a pas de passe. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt sportifs et que là, c'est un sport que l'on peut se représenter. Tout le monde s'imagine quand même les basketteurs avec deux ballons. Sinon, effectivement, non, je suis plutôt anti-sport, hein, Fabrice.
Anti-sport, carrément.
Pour ma part. Et...
Ah non, on fait du sport.
Oui. Voilà. Activité physique, oui. Marcher beaucoup, oui. Mais quand j'étais jeune et qu'on a essayé de me mettre au basket, bon, je crois qu'il y a eu un cours et j'ai très, très vite arrêté. J'ai un peu une peur phobique, en fait, justement, de ce gros ballon que j'ai pris un jour dans la figure, pour tout dire. Donc, depuis, j'aime pas tellement ça, quoi.
Oui, bah écoutez, on vous comprend. C'est vrai que ça, quand on prend un ballon, que ce soit basket ou foot, quand on est très jeune, je peux vous dire qu'on s'en souvient longtemps et que ça crée des blocages. Et c'est le genre de truc tout bête auquel on ne pense pas. Et pourtant, c'est vrai. Ça crée des blocages et voilà. Et Célia, aujourd'hui, elle aurait pu être championne de basket, faire les Jeux Olympiques. Eh bien non, voilà, on n'y est pas. Merci Célia, on va marquer une dernière pause. Et on va, après avoir parlé des catécholamines, on va aborder le cas de la sérotonine et du GABA, c'est sur Nutri Radio.
Tout à fait.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio, je vous ai coupé la chic juste avant, je pensais pas que vous alliez reparler, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, on parle des neurotransmetteurs et de leur rôle. On a vu le rôle de l'acétylcholine, celui des catécholamines et maintenant la sérotonine et le GABA pour terminer cette émission, Célia.
Eh bien écoutez, totalement, Fabrice et chers auditeurs, donc la sérotonine. Ah, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est quand même particulier, figurez-vous. C'est le neurotransmetteur qui est impliqué dans quoi ? Dans la dépression, on en a un petit peu parlé dans l'émission précédente. Lorsqu'on manque de sérotonine, généralement, les personnes sont en dépression. C'est d'ailleurs pour ça, chers auditeurs, que lorsque vous prenez des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, donc des antidépresseurs qui ont cet effet-là, qui vont donc éviter que la sérotonine soit recaptée pour prolonger l'effet de la sérotonine, tout simplement, eh ben, le Prozac, par exemple, le Seroprim, le Seroplex, vont permettre cela parce qu'on manque de sérotonine. Donc, la sérotonine est impliquée évidemment dans la dépression, mais elle est impliquée aussi dans l'impulsivité. Elle est impliquée aussi dans l'agressivité. Les personnes qui manquent de sérotonine vont être beaucoup plus agressifs, beaucoup plus irritables, beaucoup plus agressifs et beaucoup plus impulsifs. Donc, vous imaginez bien que lorsqu'on manque de sérotonine, si vous manquez de sérotonine, chers auditeurs, et vous devenez un peu plus impulsif, ben, l'impulsivité, parfois, ça peut être très drôle, mais parfois, ça peut poser problème lorsqu'il faut prendre une décision. C'est-à-dire que vous n'allez plus peser le pour et le contre des conséquences, finalement, de votre acte. Hein, généralement, lorsqu'on prend une décision, vous êtes d'accord avec moi, vous pesez le pour, le contre, les conséquences à court, moyen et long terme, et vous prenez votre décision de prise de décision, en tout état de cause. Ben là, quand on est un peu plus impulsif, ben, ça peut poser problème. Hein, ça peut rentrer dans l'art de quelqu'un, etc., être plus agressif... C'est pas, voilà, ça peut pas être adéquat, notamment au niveau professionnel ou même dans la sphère privée. La sérotonine, c'est ça. Mais c'est aussi quoi, la sérotonine? C'est aussi le sommeil. Il faut pas oublier, chers auditeurs, que la sérotonine, c'est le neurotransmetteur précurseur de la mélatonine qui est impliquée dans le sommeil. Donc, vous voyez bien que l'implication de ces neurotransmetteurs et le fait que ces neurotransmetteurs vont être libérés toujours au niveau de votre synapse, justement pour être récupéré par le second neurone pour que l'information sérotonine, le message sérotonine puisse se faire, c'est-à-dire diminuer l'impulsivité, l'agressivité, mais aussi bah, effectivement permettre du plaisir, parce que la sérotonine, c'est aussi le bien-être, le plaisir, qu'il n'y ait pas aussi de dépression, mais aussi c'est le neurotransmetteur qui est impliqué dans les comportements alimentaires. Plus on aura de sérotonine, jusqu'à certains points, parce que si on a trop de sérotonine, attention, c'est mauvais, si elle n'est plus du tout recaptée, je vais y venir, on va avoir certains petits soucis, et notamment de confusion, mais j'en reparlerai dans 30 secondes. Mais effectivement, la sérotonine est impliquée, chers auditeurs, dans nos comportements alimentaires. C'est-à-dire que plus on va avoir de la sérotonine, moins on sera, on va dire, atteint de craving alimentaire, moins on aura ce problème de frénésie alimentaire et de compulsion alimentaire. Et donc, c'est effectivement très important d'avoir un taux de sérotonine correct. Alors là aussi, ça s'apporte par l'alimentation. Pourquoi ? Parce que pour être synthétisé en sérotonine, il faut, chers auditeurs, du tryptophane, acide aminé essentiel. Donc, il faut apporter ce qu'il faut dans votre alimentation pour que le tryptophane puisse être synthétisé en sérotonine. Sinon, vous n'en avez pas. Donc, c'est comme si vous n'aviez pas de ballon, pour reprendre la première image des basketteurs. Point important. Évidemment, ce qui va se passer, chers auditeurs, c'est que si on prolonge trop l'effet de la sérotonine dans la fente synaptique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'est plus recaptée, on peut être atteint de syndrome sérotoninergique. Et syndrome sérotoninergique, ça peut même parfois conduire à la mort si on lit les contre-indications, justement, ou plutôt les effets indésirables, justement, des antidépresseurs. Donc, c'est ce qui peut se passer, justement, quand c'est mal dosé. Le médecin demande généralement, est-ce que vous avez supporté? Quels sont les symptômes? Est-ce qu'il y a eu des effets indésirables? Parce que sinon, si on donne une dose trop forte, on peut justement avoir trop de sérotonine et là être atteint d'une espèce de confusion, et évidemment confusion mentale avec toutes les répercussions que cela peut avoir, et évidemment ça va poser problème, voire même être dans certains cas peut-être létal. Point important. D'un autre côté, effectivement, pour justement, chers auditeurs, lorsque l'on a donné à des personnes certains médicaments pour justement éviter les compulsions alimentaires. Notamment, ça a fonctionné chez certains boulimiques nerveuses de donner du Prozac parce que justement, on a fait quoi? On a prolongé la libération de la sérotonine, donc on leur a augmenté leur sérotonine et ça a diminué leur comportement alimentaire frénétique. Le problème, évidemment, c'est que ce n'est pas anodin, vous en conviendrez, de donner des antidépresseurs comme cela parce que ça peut avoir des répercussions sur la santé. Et je reviens aussi sur l'exemple de l'ecstasy, qui est quand même bien connu. Ben, l'ecstasy, tout simplement, ça bloque la recapture de la sérotonine. Et pourquoi est-ce qu'on peut en mourir? Ben parce que ça bloque la recapture de la sérotonine, notamment, alors ça déshydrate aussi, mais ça bloque cette recapture de la sérotonine en la prolongeant trop longtemps dans le temps, mais en plus, ça va vider les neurones sérotoninergiques. C'est-à-dire, non seulement ça va les vider, ben en fait, c'est comme votre téléphone portable, la batterie sera vidée, et là, du coup, ben vous ne pouvez plus rien faire. Alors, un téléphone portable, batterie vide, pour le recharger, batterie vide en sérotonine, ça va être beaucoup plus compliqué, effectivement, de refaire son pool de sérotonine. En tous les cas, ça va évidemment prendre un certain temps. Mais voilà quel était le mode de fonctionnement de l'ecstasy. C'était on bloque la recapture de la sérotonine, on prolonge l'effet et ça vide effectivement les taux de sérotonine des neurones. Donc, en fait, tous vos neurones sont vidés, ils se vident, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir aussi, chers auditeurs, c'est que... au niveau donc de cette sérotonine, donc on a parlé de la confusion, on a parlé de blocage, elle est importante notamment aussi pour mieux appréhender le stress. Parce qu'il y a la régulation physiologique au stress, mais lorsqu'on manque de sérotonine, on va être plus vulnérable, on va moins bien s'adapter à un événement stressant. D'où, vous voyez, son importance. Ça, c'est pour la sérotonine. Le GABA, pourquoi est-ce que je l'ai mis avec la sérotonine? Parce que je voulais faire un petit focus sur le GABA. C'est un des rares, on va dire, neurotransmetteurs inhibiteur de l'organisme. Alors, généralement, ils fonctionnent avec le glutamate. Ils sont tous les deux impliqués notamment dans la mémoire et les apprentissages, notamment au niveau de l'hippocampe, hein. C'est-à-dire que ça va être une balance entre les deux. Le glutamate sera excitateur et le GABA va permettre de diminuer cette excitabilité. Et c'est bénéfique, pourquoi? Parce que le GABA, quand il diminue cette excitabilité, il va éviter une trop grande excitabilité des neurones, et on sait que si les neurones sont trop excités, trop excitables, et qu'il n'y a pas cette diminution d'activité électrique, bah c'est un petit peu les crises d'épilepsie finalement, hein, où il y a un problème à ce niveau-là, où il y a une trop grosse excitation neuronale, on va dire, activité électrique. Donc le GABA, il est impliqué évidemment dans quoi? Dans la diminution de l'anxiété. C'est pas pour rien que dans certains compléments alimentaires, chers auditeurs et chers Fabrice, il y a des compléments alimentaires qui ont même rajouté du GABA dedans. Donc le GABA est le garant de « je reprends mon souffle, ça diminue l'anxiété », etc. Donc quand on manque de GABA, généralement on est beaucoup, beaucoup plus anxieux. Évidemment, implication aussi dans tout ce qui est mémoire et attention. Et d'ailleurs, chers auditeurs, lorsque vous prenez des benzodiazépines, vous avez dû en entendre parler. Alors, vous connaissez ça, c'est le nom des molécules, mais si je vous parle du Lexomil, de certains myorelaxants, etc., c'est des benzodiazépines. Et ça fait quoi? Eh bien, tout simplement, ça potentialise l'effet du GABA. Ça va mimer l'effet du GABA, donc ça va augmenter l'effet du GABA pour diminuer l'anxiété. D'où le fait que le GABA soit anxiolytique, puisqu'en prenant les benzodiazépines, hein, Lexomil, généralement, on le prend pour diminuer une certaine anxiété. Les myorelaxants pour diminuer effectivement une espèce de contracture musculaire, parfois due, etc., à l'anxiété. Benzodiazépine, ça diminue, effectivement, ça augmente l'activité GABAergique, donc ça va diminuer effectivement l'anxiété, mais ça peut évidemment causer des problèmes de mémoire puisque c'est un petit peu moins excitable. Donc, on peut avoir dû aux substances quelques petits soucis de mémoire. Et ensuite, on a tout ce qui est les barbituriques, hein, notamment. Alors, il y a le phénobarbital, qui est aussi impliqué, qui va aussi potentialiser l'effet du GABA, justement pour être ce côté un petit peu sédatif. Voilà l'importance du GABA qui est aussi très important. Et ce que je voulais vous dire, chers auditeurs, en ayant focalisé cette émission sur les neurotransmetteurs, c'est tout simplement de que vous puissiez comprendre que certes, il y a de la chimie au niveau du cerveau, mais que cette chimie au niveau du cerveau, parce que les neurotransmetteurs, ce ne sont que des substances chimiques, hein, la chimie au niveau du cerveau va vous permettre d'avoir un comportement adéquat et de faire fonctionner votre cerveau correctement. Et donc, il est important de préserver son cerveau. Parce que justement, pour que cette chimie se fasse en dehors de la transmission synaptique, de l'activité électrique, etc., il faut apporter ce qui est nécessaire pour qu'il puisse être synthétisé. Et ensuite, évidemment, il faut faire attention à la balance et à veiller à tout signe avant-coureur qui pourrait déstabiliser et provoquer évidemment certaines pathologies qui s'en ressentiraient dans votre comportement. Donc, dites-vous que dès qu'il y a un problème de mémoire, d'apprentissage, d'attention, d'aller de je suis pas très bien, effectivement un petit peu dépressif, bah finalement, c'est surtout physiologique et donc du coup, neurophysiologique. Je vous remercie.
Je vous remercie. C'est tout pour moi, comme disent les stand-upers. Ah bah oui. C'est tout pour moi, Célia Mouret sur Nutri Radio. Merci beaucoup. Cette émission, vous la retrouvera en podcast à partir de dimanche 18h, bien évidemment, sur toutes les plateformes également. Et donc, Célia, on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, très volontiers, Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Mouret sur Nutri Radio.